Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est vrai que c'était une période qui, sur le papier, j'ai envie de dire, était juste magnifique. Parce que j'avais un magnifique poste, j'ai envie de dire, tout le monde rêvait presque d'avoir cette situation dans un gros groupe. J'avais toutes les conditions d'expatrié, c'est-à-dire une voiture, un chauffeur, une magnifique maison, des enfants extraordinaires, etc., etc. Mais à l'intérieur de moi, ça n'allait pas du tout.
Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
Donc, je m'appelle Corinne Huyn et après une formation en tant qu'ingénieure agro, j'ai exercé dans différents postes de direction commerciale en Afrique. Et aujourd'hui, je suis dans l'accompagnement, dans tout ce qui est coaching et thérapie basé au Vietnam.
Avant de commencer par parler de toi, est-ce que tu peux me parler de tes parents, m'expliquer d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils se sont rencontrés et ce qu'ils font dans la vie ?
Alors, j'ai deux parents d'origine vietnamienne qui sont arrivés en France à l'âge de 18 et 20 ans pour faire des études. Et ils se sont rencontrés en France d'ailleurs, dans une communauté vietnamienne basée à Paris, Paris 5. Et puis, mon papa a exercé un métier d'ingénieur agroéconomiste pour, à l'époque, la coopération française. Aujourd'hui, ça s'appelle le ministère des Affaires étrangères. Et puis, ma maman a eu une formation de chef comptable. Donc, ils se sont rencontrés en France et très rapidement, ils ont voyagé en Afrique.
Et donc, toi, où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as atterri à l'âge de 3 mois ?
Alors, moi, je suis née à Rochefort-sur-Mer, donc c'est près de La Rochelle. Et très rapidement, comme je le disais tout à l'heure, mes parents sont partis en Afrique pour vivre une expatriation et je suis arrivée à 3 mois au Tchad, à N'Djamena exactement.
Et donc, quand tu étais enfant, tu as vécu quand même dans pas mal de pays d'Afrique. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quel pays tu as vécu et pendant combien de temps ? À quelle période de ton enfance ?
Alors, j'ai vécu dans, en effet, beaucoup de pays d'Afrique. J'ai fait en tout, pour l'instant, dans ma vie, 27 années d'Afrique. J'ai fait quasiment 16 années en tant qu'enfant, entre guillemets. Et puis après, en tant qu'adulte, 11 années. J'ai vécu au début au Tchad pendant quasiment 8 ans, de 3 mois jusqu'à mes 8 ans quasiment. Après, je suis partie... je suis partie une année en France avec mes parents et puis on est revenu ensuite au Gabon pendant 5 ans. Puis de nouveau une année en France et puis on est reparti au Niger pendant 3 ans et demi quasiment.
Donc quand on avait discuté un petit peu toutes les deux, tu m'avais dit que changer comme ça assez régulièrement de pays enfant, ça ne t'avait pas dérangé. Et au contraire, ça t'a même donné l'amour du voyage et l'envie de toujours découvrir de nouvelles choses, d'apprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ces deux passions qui sont nées du fait de voyager comme ça régulièrement en étant petite ?
Oui, c'est vrai que mon enfance en tant qu'enfant d'expat vraiment m'a amenée à adorer voyager, découvrir, que ce soit des paysages comme des cultures, des histoires, des gens. J'avais partagé avec toi le fait que quand on est enfant d'expatrié, souvent on tombe soit dans l'envie d'avoir un lieu, des racines, et rester dans un pays ou dans une ville pour s'ancrer, soit on a ce goût du voyage, et je suis tombée justement dans ce goût du voyage et de la découverte, ce qui m'a amenée à, en effet, plus tard, plus grande, après les études supérieures en France, retourner en Afrique. Et aller vivre à la fois au Burkina Faso pendant plus de 8 ans et puis en Côte d'Ivoire et puis maintenant au Vietnam.
Et justement, tu me parlais que tu étais une enfant expatriée. Ça ressemble à quoi d'être enfant expatriée en Afrique?
Alors, en tant qu'enfant expatrié en Afrique, j'avoue que mais j'étais enfant, donc je ne voyais que le côté positif. Même si mes parents ont été au Tchad, par exemple, durant des périodes de crise et de guerre, voire même de guerre civile, en tant qu'enfant, j'étais hyper préservée. Donc, moi, j'avais une enfance extraordinaire. À l'époque, j'avais le droit à avoir plein d'animaux, puisque j'étais fan d'animaux. Donc, j'ai eu des autruchons, des hérissons, des biches, des gazelles. Et j'ai eu une enfance, pour moi en tout cas, hors norme, et qui m'a amenée à vouloir partager ça à mes enfants aujourd'hui.
Et tu m'avais dit que c'était quand même une enfance assez privilégiée, dans le sens où vous étiez dans des grandes et belles maisons. Est-ce que tu peux me parler aussi de ce côté-là?
Et en effet, vivre en tout cas en expatriation en Afrique, dans mon cadre, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais dans mon cadre, on avait la chance d'être dans des magnifiques maisons, dans des cadres avec des très beaux jardins, etc. C'était un peu comme un cocon protégé. Mais ce qui était important pour mes parents, ce n'était pas que de vivre dans cette cage dorée ou dans ce château-là. Mais vraiment pouvoir aussi connecter avec la vraie vie, entre guillemets, hors cadre expatrié. Et on était souvent dehors, les week-ends, à vadrouiller, à être sur le terrain, à être dans l'associatif aussi avec mes parents, pour pas perdre de vue aussi la réalité des choses, hein, en dehors de cette cage d'expatrié quelquefois. C'est pas toujours le cas, la cage d'expatrié, mais ça peut l'être.
Et donc, pour le côté scolaire, là-bas, tu étais dans une école française. Est-ce que tu peux expliquer à des gens qui ne savent pas du tout à quoi ça ressemble une école française à l'étranger, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a des différences avec la France, peut-être une école en métropole, par exemple?
Alors, une école, alors souvent, les écoles à l'étranger, les écoles françaises sont souvent un mix entre à la fois le primaire, le collège et le lycée. Donc, tout est regroupé souvent dans un seul endroit. J'ai envie de dire, on suit le programme français. Souvent, en tout cas à mon époque, c'était vraiment l'Académie de Nice. Donc, on suivait les vacances de l'Académie de Nice, le programme français. On avait des professeurs qui étaient détachés de France, de l'éducation nationale pour venir nous faire cours. J'ai envie de dire, rien n'était vraiment différent à part que on était tous mélangés, vraiment du primaire au lycée. Et puis forcément, comme on n'était pas, on a, c'était une petite communauté française, on se connaissait peut-être pas tous, mais on voyait qui était qui. Et on avait un lien qui était particulier finalement, chacun dans notre classe. La différence qui m'avait vraiment marqué lorsque je suis rentrée en France en terminale. J'ai fait ma terminale en France notamment. Je me suis rendu compte des liens qu'on avait chacun de nous dans la classe, comparé à peut-être en France où les gens se connaissaient peut-être un peu moins, venaient de milieux un peu différents, etc. C'était vraiment ça la différence première qui m'avait marqué. Et puis j'avais partagé le fait aussi que lorsque j'étais arrivée en terminale, la chose qui m'avait marqué, c'est que tous les gens de ma classe fumaient, ce qui n'était pas du tout le cas en Afrique. Je pense qu'on était peut-être préservés c'est peut-être plus le cas maintenant, mais en tout cas à mon époque de tout ce qui est cigarettes et autres.
J'y reviendrai sur ta terminale en France. Avant ça, tu m'avais aussi dit que dans une école française à l'étranger, tu trouvais que les professeurs étaient mieux adaptés aux élèves parce que vous étiez en plus petit groupe et que du coup vous aviez peut-être un enseignement un peu plus privilégié. Est-ce que tu peux aussi me parler de cette facette?
C'est vrai que dans les écoles à l'étranger, on a la chance d'être pas trop nombreux par classe. Alors on reste ça dépend des niveaux, entre 20 et 25 élèves, mais on avait cette chance de pas voilà être 30, 35, 40, etc. Et du coup, les professeurs prenaient vraiment le temps d'être focus sur chacun des enfants. Donc on avait aussi cette chance-là d'avoir presque une éducation privé entre guillemets, j'exagère sur le privé, mais où on était vraiment suivi, où les professeurs suivaient le rythme des enfants, en tout cas essayaient au maximum de le faire, alors pas tous, mais quand même, il y avait vraiment cette possibilité-là d'être accompagné pas à pas par des professeurs quasiment.
Et donc toi, à l'école, t'étais quand même plutôt une bonne élève, mais j'ai envie de te dire que t'avais pas trop le choix, parce que tes parents étaient assez exigeants au niveau des notes. Est-ce que tu peux me parler de ça et peut-être me donner une anecdote, une fois qui s'est passée, notamment celle que tu m'avais racontée à 7 ans, où t'étais rentrée toute contente et où ton père t'a un peu remis à ta place, on va dire.
Oui, alors c'est sûr que mon parcours scolaire était plutôt un bon parcours scolaire, on va dire ça comme ça. Plutôt bonne élève, pas excellente, mais bonne élève. Mais en effet, j'avais pas vraiment le choix. Dans la famille, il fallait être soit très bon, soit très très bon. Donc bon. Et pour illustrer cela, c'est vrai que je me souviens, et même encore je m'en souviens, et j'essaye de ne pas faire pareil avec mes enfants, mais il y a un moment donné où j'étais toute contente, je pense que j'étais en fin de primaire plutôt, où je suis arrivée avec un super bulletin scolaire, en disant « Regarde papa, je suis arrivée deuxième de ma classe, c'est trop trop bien ». Et je me souviens de la réponse de mon père qui a regardé le bulletin et qui a dit « Oui, mais t'es pas première ». Et là, j'ai fait « Ok, très bien, donc la prochaine fois, tu le seras, ma fille, très bien. Ok, papa, merci beaucoup ». Et c'est vrai que le trimestre d'après, c'était logique pour moi de faire le nécessaire. Et je suis arrivée en disant « Papa, je suis première cette fois ». J'ai dépassé Claire. Je me souviens même du prénom de la personne qui était première à l'époque. Ouais.
Et du coup, est-ce que ça t'a forcé un peu à être toujours très exigeante avec toi-même dans tes résultats tout au long de ta vie? Ou est-ce que tu as réussi un peu à te détacher de ça en grandissant et à un peu plus souffler et à te dire si je suis pas la meilleure, c'est pas très grave?
Sincèrement, je pense que ça m'a toujours drivée, de manière consciente comme inconsciente. C'est-à-dire que clairement, jusqu'à mes études supérieures, je mettais, si c'était pas mes parents, je me mettrais moi-même la pression pour toujours réussir, toujours faire bien, c'était jamais assez. Et je ne te cache pas qu'aujourd'hui, c'est encore un peu le cas. Je sens ces schémas-là encore chez moi où ce n'est pas suffisant, j'aurais pu faire mieux. Un regard très critique sur ce que j'ai accompli, fait ou pas fait, même quelquefois. Et j'essaye de m'en détacher, mais c'est vrai que c'est un schéma qui est tellement ancré que ce côté un peu perfectionniste, exigeante, au-delà du perfectionniste, est encore bien présent.
Et tu me parlais que tu essayais de ne pas reproduire ça sur tes enfants, parce que tu as envie d'être un peu exigeante comme ça avec eux sur les résultats, tu essayes de faire en sorte qu'ils aient des bonnes notes?
Non, justement, avec mes enfants, ce côté hyper exigeant, j'essaye de l'assouplir. Alors oui, il ne faut pas faire n'importe quoi, j'ai envie de dire, mais j'essaye justement d'arrondir les angles pour que chacun trouve, j'ai envie de dire, sa place, en tout cas chez mes enfants, et fasse un peu du mieux qu'ils peuvent sans avoir cette pression de faire à la perfection, j'ai envie de dire.
Et donc, puisque tes parents étaient assez exigeants, est-ce qu'ils imaginaient une certaine carrière professionnelle pour toi avec des métiers bien précis ?
Tout à fait. Dans la famille, on est soit médecin, soit ingénieur. C'est le strict minimum, sinon ça ne va pas. Et c'est vrai que toute petite, alors à part une fois où je me suis rêvée hôtesse de l'air, parce que je trouvais que les hôtesses de l'air étaient magnifiques et très belles, c'est vite passé. J'ai vite compris qu'il fallait que j'aille soit dans la voie de l'ingénierie, soit dans tout ce qui est médecine, pharmacie, etc. Donc finalement, j'ai choisi, de par mon évolution, un métier, je me suis orientée vers médecine. Et j'ai voulu faire médecine à un moment donné de ma vie, ouais.
Et donc là, est-ce que tu peux me dire justement que tu es rentrée en France pour la terminale et que tu as aussi fait une partie de tes études quand même là-bas, mmh. Et me parler donc de tes études en médecine, des premières années que tu as fait là-bas?
Alors après, comme tous les enfants d'expat, j'ai envie de dire, souvent pour les études supérieures, on rentre en France. Moi, je suis rentrée en terminale parce qu'il y avait eu un coup d'État au Niger à l'époque et on a dû rentrer en urgence. Donc je suis arrivée en région parisienne pour ma terminale. Et c'est vrai que ce fut, j'ai envie de dire, presque un choc culturel. Parce que tout simplement, la vie était complètement différente. Même si je rentrais régulièrement durant l'été en France, voire durant les périodes de Noël, y vivre était quand même différent. Les élèves aussi étaient différents, c'est ce que j'avais partagé tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier choc, c'était le fait que tous les élèves de ma classe en terminale fumaient, alors que c'était très très rare là où on était au Niger, à Niamey. Donc oui, je suis rentrée en terminale, il y a eu ce choc-là, il y a eu aussi des questions par rapport à ma vie africaine, de savoir comment j'habitais, où je dormais, est-ce que je vivais dans des cases, est-ce qu'il y avait des animaux sauvages autour de moi. Et après, je suis partie faire des études à Paris pour des études supérieures. Donc, c'est vrai que j'avais tenté médecine. Donc, j'ai fait 3 premières années de médecine, ce qui est quand même rare, mais j'avais réussi à avoir une dérogation en deuxième année parce que malheureusement, j'ai perdu mon papa en deuxième année de médecine, de par une longue maladie, etc. Et j'ai demandé une dérogation. Mais si je m'étais vraiment écoutée, je pense que je n'aurais pas forcément tripler ma première année. Je l'ai fait juste parce que, j'ai envie de dire, en hommage peut-être à papa qui voulait que je sois médecin. Et j'ai fait une troisième année de première année de médecine. Et finalement, j'ai eu le concours. À la fin du concours, j'ai eu sage-femme. Et je me suis dit, sage-femme, ce n'est pas médecin. Donc peut-être que je vais partir plutôt dans l'ingénierie, parce que c'était soit médecin, soit ingénieur à l'époque.
Parce que ta famille, pour eux, faire sage-femme, ça allait pas, ça convenait pas au modèle familial ?
Parce que c'est vrai que sage-femme, pour moi, c'était pas forcément le métier de mes rêves, même si c'est un magnifique métier et je trouve ça beau d'avoir des personnes qui accompagnent dans la grossesse et l'accouchement, mais pour moi, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Mais aussi, clairement, parce que dans ma famille, oui, en effet, on était... soit médecin, soit pharmacien et pas autre chose, quoi. Donc, si c'était pas ça, il fallait aller vers l'ingénierie. Donc j'ai basculé dans une école d'ingénieur agroéconomiste. Ouais.
Et dans cette école, c'est là que tu as rencontré ton futur mari,
oui.
Du coup.
Exactement.
Est-ce que tu peux me l'expliquer rapidement ?
Oui, donc je suis partie dans cette école d'ingénieur agroéconomiste. Je suis rentrée directement en deuxième année parce que j'avais déjà fait plusieurs, on va dire, un cursus scolaire avant, universitaire avant. Donc, j'ai pu rentrer directement en deuxième année de cette école d'ingénieur agro. Et c'est vrai que c'est là-bas que j'ai rencontré mon époux qui, lui, finissait le cursus ingénieur. Et moi, j'y rentrais. Et on s'est croisés. Je me souviens, il rentrait d'un stage de 6 mois au Népal, en train de faire du fromage de chèvre au Népal. Et on s'est croisés dans la cafette de l'école. Et c'est comme ça que finalement, on a parlé, on a fait connaissance. Et aujourd'hui, on est encore mariés.
Et donc, vous finissez tous les deux vos études d'ingénieur. Et vous avez tous les deux cette envie de voyage. Et donc, vous partez de la France. Est-ce que tu peux m'expliquer cette période, cet amour aussi pour le voyage que vous partagez à deux et votre départ pour le Burkina Faso, du coup?
C'est vrai que on s'est rencontrés. Moi, il me restait encore 3 ans d'études. Lui, il lui restait un an et demi, 2 ans, je ne sais plus. Enfin bref, très mauvaise mémoire, mais il lui restait moins d'années que moi. Donc, il m'a attendu. Donc, il a travaillé en France un petit bout de temps. Et puis, tous les deux, c'est vrai qu'on avait cette soif de découvrir, de voyager. Lui, il n'avait pas forcément énormément voyagé dans sa vie, mais il avait justement cette envie d'y aller. Et puis moi, avec ma vie d'expatrié et ce goût de découverte et de voyage, j'avais envie d'y retourner. Et on s'était dit, à la sortie de moi, mon diplôme et l'école, on s'était dit, celui qui trouve en premier, suit l'autre. Le premier qui trouve, suit l'autre. Et à l'époque, on avait, je me souviens, il avait trouvé un VIE, donc un volontariat international en entreprise, normalement pour partir à Madagascar, dans tout ce qui est phyto, engrais, etc. Donc il m'a dit, écoute, je passe un entretien pour aller à Madagascar. Est-ce que ça te tente ? Là, je fais génial, Madagascar, c'est super, je connais pas. Donc, il passe l'entretien et il revient. J'étais avec des amis dans le jardin du Luxembourg. Et là, il m'annonce, il fait « Écoute, j'ai eu le poste, mais ça va être au Burkina Faso, dans les produits chimiques. » Et là, j'ai un peu déchanté parce qu'entre Madagascar et le Burkina Faso, c'était pas la même chose. Mais voilà, et c'est pour ça que qu'on est parti quelques mois plus tard au Burkina, ouais.
Et donc toi, quand tu arrives au Burkina Faso, tu te dis « super, je vais trouver un métier en rapport, je viens de finir mes études, ouais, c'est parti ». Mais au final, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà ça et pourquoi est-ce que c'était compliqué là-bas de trouver un métier en rapport avec tes études?
Alors en effet, lorsque il m'a annoncé Burkina Faso, je me suis dit génial, il y a énormément d'ONG, d'organismes qui sont présents là-bas où je pourrais justement utiliser ma formation d'ingénieur agroéconomiste pour trouver mon métier, pour exercer. Et lorsque je suis arrivée là-bas, alors je marche beaucoup au feeling et aux rencontres, et j'ai rencontré très rapidement un ancien ami de mes parents qui tenait un bureau d'études à Ouagadougou. Et il m'a proposé un poste il m'a proposé de monter en fait une filiale destinée aux entreprises privées avec une amie à lui. J'y connaissais strictement rien parce que j'avais jamais fait d'études dans monter une structure, dans le côté privé, dans le commerce international. Et puis j'ai dit oui. J'ai dit oui très rapidement, sans me poser vraiment de questions. Et j'ai donc monté une filiale pour ce bureau d'études-là, destinée au privé. Donc je faisais énormément de recrutement. J'étais chargée du pôle recrutement, de temps en temps de l'événementiel et du marketing. Donc ça a duré à peu près 10 mois comme ça, jusqu'au moment où je me suis posé des questions de nouveau.
Concrètement, avant de rentrer dans ce métier-là, les problèmes qu'il y avait pour trouver du métier en rapport avec tes études, c'était qu'en fait, tu étais expatriée et qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en France et pas forcément en Afrique. C'est ça que tu m'avais expliqué en gros. Est-ce que tu peux me le redire?
Oui. Et donc, après ces 10 mois-là de poste dans un bureau d'études qui créait une filiale vraiment pour le privé, je me suis dit que j'allais retourner dans ce que j'aimais faire, dans ma formation. Et j'ai commencé à postuler dans des postes pour des organisations internationales, des ONG, etc. Et je me suis vraiment confrontée à deux choses, on va dire. La première, c'est que j'étais basée dans le pays. Et c'était la plupart des recrutements se faisaient au siège. Donc, ils me disaient, génial ton CV, sauf qu'il faut que tu fasses un aller-retour en France pour faire tout le process de recrutement. Et là, il n'y avait pas de télétravail à l'époque et Zoom n'était pas trop connu. Donc, c'était compliqué pour moi. Donc, je loupais des opportunités comme ça. Et puis, j'étais confrontée aussi à l'autre revers, c'est-à-dire que j'étais sur place et les personnes du siège qui recrutaient avaient peur que je sois pistonnée par ceux qui étaient déjà présents localement. Donc je me retrouvais vraiment, j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises en disant, ok, je fais quoi? Je rentre en France, je reste ici. Et à chaque fois, il y avait un avantage, mais aussi un gros inconvénient au recrutement, face aux recruteurs en fait.
Et donc finalement, pendant cette pause où t'hésitais et t'essayais de trouver, mais ça concluait pas, après ça, t'es jamais vraiment retournée vers un métier en lien avec ingénieur agronome et t'as eu plusieurs expériences dans plein de métiers différents. J'en avais noté 3 que t'as fait en Afrique. Est-ce que tu peux me les citer et me dire dans quel pays aussi tu les exerçais, puisque vous n'êtes pas que resté dans la capitale du Burkina Faso?
Donc je me suis laissé une période de 6 mois, tu vois, pour trouver dans mon domaine de formation. Et malheureusement, après 6 mois, à chaque fois, je me retrouvais presque à la fin du recrutement et une porte qui se ferme. Donc, moralement, ça a été très, très compliqué. J'en ai voulu aussi à mon époux en disant « Ah, tu vois, toi, tu exerces dans ton domaine, mais pas moi ». Mais à côté de ça, j'avais énormément de personnes qui me contactaient pour aller travailler dans des sociétés privées. Et c'est vrai que je me suis lancée dedans en disant « Ok, c'est bon, j'en ai marre de chercher dans mon domaine ». Donc, je suis partie et j'ai exercé plusieurs postes. Ouais. J'étais au début responsable d'agence au Burkina Faso d'une société de logistique, alors que je ne connaissais strictement rien à la logistique, aux incoterms et au commerce international. Mais on m'a fait confiance. Donc, j'ai exercé ce poste pendant quasiment 5-6 ans. Au début à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso. Puis à un moment donné, mon mari a été muté dans la deuxième ville, puisque le siège était là-bas, à Bobo-Dioulasso. Et là, je me suis dit, je vais perdre mon boulot, puisque je suis responsable d'agence et l'agence est basée à Ouagadougou, dans la capitale. Si je mute à quasiment 400 km de la capitale, ça risque d'être compliqué. Finalement, j'ai réussi à garder ce poste-là quand même. On a continué à me faire confiance. J'ai commencé à faire du télétravail déjà à l'époque. Et donc j'ai switché comme ça entre la capitale, entre la seconde ville du pays. Je faisais énormément d'allers-retours, mais j'aimais bien ça, donc ça ne me gênait pas. Et puis petit à petit, la vie a fait que on a voulu avoir des enfants. Et je suis tombée enceinte, et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, je ne vais peut-être pas continuer à faire énormément d'allers-retours comme ça, ce n'est pas viable, ni pour moi, ni pour mon fils. Donc j'ai commencé à ouvrir d'autres portes. J'ai de nouveau fait un poste de logistique basé au Burkina Faso. Puis, quasiment 2 ans après, on est parti. On est parti du Burkina Faso pour partir en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, pour moi, c'était logique de continuer dans la logistique puisque j'aimais bien ça, puisque ça se passait très bien. Sauf que, pareil, je te disais tout à l'heure que je marche par les rencontres, les hasards, entre guillemets, de la vie, même si je ne crois plus au hasard. Et j'ai rencontré une personne qui m'a proposé très rapidement un poste de, en gros, être son bras droit dans une régie publicitaire. Et je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une régie publicitaire, donc j'ai googlisé. Et j'ai vu que c'était tout ce qui est publicité sur des espaces différents, que ce soit presse, médias, télé, radio, etc. Et donc j'ai dit oui. Et je suis rentrée dedans. Et très rapidement, quelques mois plus tard, je ne savais pas, mais elle le savait. Donc ma boss directe le savait. J'ai intégré sa société et donc du coup toute l'équipe a intégré le groupe Canal Plus Advertising, et on a créé la première filiale de Canal Plus Advertising au monde, et notamment basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ouais.
Et donc, dans tout ce que tu viens de m'expliquer, tu l'as brièvement dit, que l'une des raisons pour lesquelles tu as pas mal changé d'endroit, c'est aussi parce que ton mari, du coup, trouvait des opportunités ailleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, en fait, me le redire en quelques mots?
Alors, c'est vrai que durant toute ma vie professionnelle, on a énormément bougé. Parce que c'était amené par le métier de mon mari. À chaque fois, il travaillait dans la même société, il a travaillé longtemps dans la même société, mais il était amené à bouger. Donc on a fait au début la capitale, à Ouagadougou, au Burkina Faso, puis après on a bougé à Bobo-Dioulasso. Et puis très rapidement, on est parti en Côte d'Ivoire pour le métier de mon mari. Donc à chaque fois, je suivais, et à chaque fois, je devais, entre guillemets, me réinventer.
Et est-ce que toi, c'était quelque chose qui te dérangeait, ou est-ce que ça ne te dérangeait pas du tout de le suivre comme ça?
Alors, au début, c'était un peu le deal. On s'était dit, celui qui bouge, l'autre suit. Donc, c'était le deal, donc c'était OK. Mais c'est vrai qu'à force, le stress de devoir potentiellement rechercher un nouveau métier, potentiellement se réinventer de nouveau, alors c'était à la fois un stress positif, mais aussi, entre guillemets, qui peut être limitant, ça pesait de plus en plus, clairement. C'est-à-dire, au début, c'était OK, et puis ça m'amusait d'apprendre plein de choses. Et puis, plus on avançait, plus dans le temps, plus je me disais, attends, est-ce que j'ai envie de tout recommencer à zéro et de devoir à chaque fois chercher un nouveau métier, ouais.
Et donc, comme tu le disais, donc, là, tu viens de me le dire, que ça te fatiguait, etc., et que t'en avais marre un peu de bouger, de toujours te réapprendre, te réadapter. Et ça a entraîné une certaine remise en question chez toi, de vouloir commencer à un peu changer de vie et à vraiment te poser dans un seul métier. Est-ce que tu peux m'expliquer ça et m'expliquer que, par cette réflexion, tu as commencé à avoir un peu des envies d'aller en Asie, du coup?
C'est vrai que quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai eu donc cette opportunité de poste de directrice commerciale dans cette agence média. Et alors c'était à la fois de nouveau très excitant, parce que de nouveau un challenge, de nouveau un apprentissage, une découverte, etc. Découverte d'un milieu, de métier, de compétences. Mais je commençais en effet à me dire, est-ce que j'ai envie de faire ça tous les 3 ans, tous les 5 ans, de me renouveler complètement, maintenant que j'ai 2 enfants, à l'époque j'avais 2 enfants déjà. Et je ne me sentais pas le courage de le faire. C'était OK là, en Côte d'Ivoire, dans ce métier-là. C'était OK de me réinventer de nouveau. Mais quand je me projetais sur 10, 15, 20 ans, je ne me voyais pas du tout changer tous les 3 ans ou 5 ans. Et ça commençait à me fatiguer, ça commençait à me peser. Et je me suis dit, mais j'ai eu la chance de toujours m'éclater dans les différents postes que j'ai exercés. Être hyper à l'aise dans plein de domaines différents. Mais quel était le lien de tout ça? Et j'ai commencé à me poser des questions, en effet par rapport à mon parcours professionnel. Et puis aussi à l'époque, puisque les choses ne viennent pas seules, il y a eu aussi un questionnement personnel qui est arrivé. Alors que j'ai grandi en Afrique, que j'ai un bout de mon cœur qui est là-bas, que je reviendrai avec plaisir, j'ai eu comme une sorte d'appel vers l'Asie que je ne comprenais pas. Parce que pour moi, j'étais très bien là où j'étais. Donc, je ne comprenais pas cet appel vers l'Asie. Et c'est vrai que ça faisait déjà plusieurs mois, presque années, que je commençais à harceler presque mon époux en disant « Je veux aller en Asie, je veux aller en Asie », sans vraiment comprendre les raisons. Donc, les deux se sont manifestés un peu au même moment.
Tu as commencé à me le dire que voilà, tu poussais un peu ton époux de plus en plus. Et tu m'avais dit que ça avait joué un petit peu sur ton moral, ta façon de te comporter, ton caractère, que vraiment c'était avec insistance que tu montrais cette envie d'Asie. Mmh. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu plus cette partie?
Oui, c'est vrai que arrivée en Côte d'Ivoire, lorsque j'ai eu cette opportunité au sein du groupe Canal, j'ai adoré ça, mais déjà j'étais en questionnement, et que ce soit professionnel comme personnel, et j'avais cette envie d'Asie, comme je te le disais, et j'ai envie de dire, je prenais pas mes responsabilités. Et je remettais tout sur les épaules de mon époux en disant, il faut que tu nous trouves un super poste en Asie. C'est à toi de chercher un poste en expatriation. C'est à toi de faire tout le nécessaire pour nous amener là-bas. Et comme lui ne comprenait pas cette envie viscérale d'aller en Asie, puisque même moi-même, je ne la comprenais pas, il me disait oui, mais voilà, quoi, on était bien en Afrique. Pourquoi il fallait qu'on parte absolument? Et comme j'arrivais pas à comprendre moi qu'est-ce qui m'animait, pourquoi cette envie, et j'arrivais pas à le transmettre auprès de mon époux, je commençais à un peu être très désagréable, très insistante, très agressive même parfois. Je commençais à perdre patience par rapport à mes enfants. Je commençais à ne plus prendre plaisir dans ma vie professionnelle comme je le faisais avant, parce que je n'avais qu'une attente, c'était de partir. Partir pourquoi, je ne savais pas, et faire autre chose, oui, mais quoi? Mais j'avais vraiment plus que cette attente-là, et ça commençait à me bouffer de l'intérieur. Et j'ai commencé petit à petit finalement à me couper, tu vois, de la vie sociale, à être moins présente, à être moins enjouée, joyeuse, spontanée. Je commençais vraiment à perdre tout ça, ouais.
Et est-ce qu'une des raisons pour lesquelles tu mettais toute cette pression sur ton mari, c'est parce que ça a toujours été lui un peu l'élément déclencheur de vos déménagements? Est-ce que c'est pour ça que ça reposait vraiment sur lui la décision d'aller en Asie?
Oui, complètement. Comme ça a toujours été mon mari qui trouvait des postes et qui nous amenait à bouger dans différents pays, c'est vrai que j'ai considéré que c'était à lui, de nouveau, à mon mari, de faire le nécessaire pour nous amener en Asie. Et oui, je mettais toute la pression sur ses épaules.
Durant cette phase où ça allait pas, clairement, tu m'avais dit aussi une phrase. Quand on avait discuté, tu m'avais dit que de l'extérieur, on pouvait penser que tout allait bien chez toi, que tu avais une vie parfaite, très bien, un bon poste chez Canal, mais qu'au final, à l'intérieur, ça allait pas du tout. Est-ce que tu peux me redire cette phrase et m'expliquer pourquoi est-ce que tu ressentais ça?
C'est vrai que c'était une période qui, sur le papier, j'ai envie de dire, était juste magnifique. Parce que j'avais un magnifique poste, j'ai envie de dire, tout le monde rêvait presque d'avoir cette situation dans un gros groupe. J'avais toutes les conditions d'expatrié, c'est-à-dire une voiture, un chauffeur, une magnifique maison, des enfants extraordinaires, etc., etc. Mais à l'intérieur de moi, ça n'allait pas du tout. On ne le voyait pas du tout, d'ailleurs, à l'extérieur. J'arrivais à bien le cacher. On pensait que j'étais très, très contente de mon boulot et de là où j'étais. Mais finalement, je mourais à petit feu à l'intérieur. Et puis, à un moment donné, il fallait que ça change, quoi.
Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partagez si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.